Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Bienvenue pour Boudelux Paris, l'édition du week-end. Et vous le savez désormais, Boudelux, c'est tous les jours de la semaine. En direct, je vous retrouve entre 13h et 15h. Et quand enfin arrive le week-end, je retrouve mon acolyte de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et cette semaine, nous vous présentons les 40 plus beaux meubles précieux. Ils sont exposés à l'hôtel de la Marine à Paris pour AD Collection 2e édition jusqu'au 10 avril. Le magazine AD a sélectionné objets et meubles de haute facture signés de décorateurs, designer ou artiste artisan comme Erwan Boulou. Il est designer sculpteur. Fabrice Sausset, il est architecte. Michel Bismuth, designer et architecte pour Bismuth & Bismuth. Ou encore le mobilier national qui a travaillé sur une table en partenariat avec le designer Noé Duchaufour-Laurence. Mais pour l'heure, les nouveautés de la semaine.
Boudelux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et les nouveautés, Emmanuel, comme chaque semaine, on commence avec votre table de la semaine.
La table de la semaine, le Fish Club.
On a déjà parlé. Mais oui, ça me dit quelque chose, mais ça existe déjà, ça.
Ça existait déjà. En fait, il y a 2 ans, ça a ouvert, orchestré par la bande de l'Expérimental, les garçons de l'Expérimental, resto, bar, hôtel, club, Paris, Londres, New York, on les connaît. Ils ont lancé, donc il y a 2 ans, ce Fish Club. Ils l'avaient fermé depuis 6 mois. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a, en gastronomie comme ailleurs, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Finalement, la formule de départ du Fish Club, c'était, avec un petit temps d'avance sur l'époque, la veine du poisson cru mariné ceviché. C'est très bien, mais c'est un peu réduit, finalement, on s'en lasse. Ils ont préféré arrêter pendant 6 mois l'adresse, repartir avec un nouveau chef, un nouveau décoration et surtout un nouveau concept de table avec une mer plus épanouie, plus élargie. Et donc, on se retrouve avec une carte où, justement, qui tire des belles bordées. Avec un principe, il n'est pas exclusif, mais c'est de rendre hommage au poisson de la mer du Nord. D'abord, le chef est un chef qui s'est calé, elle est captée à Anvers, en Belgique, donc il sait ce qu'il faire avec cette cuisine-là et ces poissons-là, ce qui donne quelques grands plats de la cambuse, j'allais dire nordiste, et notamment flamande et belge, avec les fameuses croquettes flamandes, vous savez, les croquettes grises aux crevettes, également tout un travail autour de la friture de petits poissons, également, bien sûr, le travail autour de l'anguille fumée, des poissons fumés, ça c'est très sympathique. Au niveau des plateaux de coquillages, ils vont travailler quelques crus, notamment les fameuses huîtres de Zélande. On les appelle, elles sont un peu costauds, un peu travaillées. Au-delà de ça, ils rendent aussi hommage quand même à une mer, encore une fois, un peu plus large, un peu plus élargie. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on est trop dans la monomanie. Donc, on va se retrouver avec des petits plats de cambuse, comme je l'ai dit, des fritures, des plats de petits poissons. Alors, les petits poissons, c'est l'anguille, c'est la rillette de maquereau, c'est la salade de chair de crabe, et puis les gros poissons. Et là, il y a les turbots, il y a les ferrats du lac Léman, et surtout, le retour d'un classique perdu de vue qu'on est ravis de retrouver, c'est la fameuse truite aux amandes. Ça, c'est un plat des années 70, qui était un plat culte qu'on avait abandonné. Il revient ici avec une modernité formidable. D'abord parce que la truite est désarrêtée. Quand on était gamin, c'est vrai que c'était un petit peu la bataille. On adorait ça, mais bon. Et il travaille l'amande en manière de crumble. Donc, c'est tout le plaisir de la truite aux amandes, mais travaillé avec des codes un peu plus contemporains. Et rien que pour ce plat-là, faut retourner au Fish Club, qui rend hommage à ce qu'on appelle le seafood style. Et au départ, c'est ce qu'ils voulaient faire il y a 2 ans, c'était un peu raté. Et là, et vraiment, ben voilà. Ils sont dans la bonne écume.
Fish au pluriel, on l'a bien compris, c'est rue Jean-Jacques Rousseau, dans le premier arrondissement.
Tout près des forums, des halles qui sont en train de se réinventer, y compris en manière de gastronomie. Mais on va en reparler.
Allez, on reste dans la gastronomie, dans les Pircuriens, quand la gastronomie et le luxe rencontrent l'art. C'est tous les jours, vous allez me dire, ou presque. La maison Taïwan, justement, grande maison gastronomique s'il en est, s'engage dans le domaine de la photographie. L'idée, c'est qu'à chaque saison, son photographe, à chaque fois, ils ont 4 photographes, de créer une nature morte autour de ce qu'ils font chez Taïwan, autour des produits. Donc la première invitée pour le printemps, c'est Candice Milon, et ils accompagnent cette communication. Alors d'abord, ça lui permet un petit peu de visibilité, on va bientôt voir sa photo chez Taïwan. C'est accompagné d'un menu essentiel, plus abordable pour chez Taïwan, 148 euros sans les vins, mais avec des assiettes qui correspondent au plaisir des yeux que l'on va retrouver dans la photographie, par exemple, avec un petit homard bleu dans tous ses éclats. Voilà. Vous venez autant pour le plaisir des yeux que pour le plaisir de la bouche, et vous retrouvez donc cette photographie. Donc là, on était sur le printemps, mais il va y en avoir une différente pour chaque saison. deuxième rencontre.
C'est bien vu. Oui, parce que la photographie culinaire est en train de... Aujourd'hui, il y a vraiment des photographes qui choisissent la photographie culinaire comme lieu d'expression. On le voit à travers plein de beaux livres. Et aujourd'hui, il y a d'ailleurs des concours, il y a des prix qui sont dédiés à la photographie culinaire avec des jurys qui les accompagnent. C'est vraiment aujourd'hui un des champs d'expression de la photographie contemporaine.
Et on parle toujours photographie, mais cette fois-ci avec une grande maison de champagne, c'est Ruinart qui a travaillé avec Erwin Olaf, grand photographe reconnu internationalement. Vous savez que les crayères de Reims ont été reconnues au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, 26 clichés, il est allé en fait dans les crayères, il est allé voir la matière, il est allé toucher. Et donc, ces clichés noirs et blancs nous montrent ces crayères telles qu'elles existent, avec leurs griffures, avec les aléas du temps. Donc, on a toutes ces photos-là. Et puis, par ailleurs...
C'est la ligne de l'abstraction, hein.
Bah exactement. Et puis la deuxième chose, il a travaillé sur une cascade dont les courbes gravées dans le bois rappellent la première affiche originale, donc la première fois que Ruinart a travaillé avec un artiste. Donc voilà, ces collaborations se multiplient, mais voilà, encore une autre manière, et plus ça va, j'ai l'impression, plus c'est fait de manière intelligente, artistique et intéressante pour tout le monde.
C'est pas qu'une impression, et en tout cas, concernant la maison Ruinart, vous savez, il y a beaucoup de maisons de mode, de luxe, qui aujourd'hui investissent le champ de la création de l'art contemporain, avec plus ou moins de légitimité, mais Ruinart, c'était l'une des premières maisons de champagne. C'est pas nouveau, hein, leurs associations avec le monde de l'art.
1896, l'affiche. Alors,
pour la maison et l'affiche, ils ont toujours cette relation-là. Et ils la développent depuis 20-30 ans. Donc aujourd'hui, ils sont tout à fait légitimes. D'ailleurs, si un artiste comme Erwin Olaf vient travailler avec eux, c'est qu'ils s'y retrouvent aussi parce que derrière, il y a effectivement un travail. Encore une fois, ce grand mot qui est la légitimité.
Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Et pour Web de Luxe, on accueille Sandy Pronois. Bonjour Sandy. Comment allez-vous?
Super.
Parfait. Alors, que nous avez-vous trouvé sur le web cette semaine?
Alors d'abord, ce blog à découvrir de Francesca Matteoli, totalement indépendant, pas de sponsor, donc on y plonge, hein, véritablement la tête la première, parce qu'en plus il y a des mots et des images qui nous donnent envie de rêver, ça fait du bien. Des exemples, la forêt amazonienne, qui nature sauvage évidemment, qui est décrite comme la possibilité du tout, le besoin d'évasion, tout ça. Non mais c'est vraiment bien écrit, je rigole, mais il y a une vraie proposition éditoriale, de vraies belles images. On découvre aussi, c'est un blog dédié au voyage, hein, puisque Francesca Matteoli est une journaliste écrivain de voyage.
Voyageuse.
Voilà. Donc là, on va véritablement découvrir son univers. Il n'y a pas que du voyage en vrai, parce qu'il y a aussi des éléments de Paris, par exemple le Philharmonie de Paris, créé par Jean Nouvel, qui est un superbe endroit. Un voyage comme un autre, mais aussi parisien, qui nous donne véritablement envie d'aller écouter de la musique, même quand on n'est pas spécialement un amateur. Voilà, beaucoup de choses. On découvre aussi ses livres, évidemment. Il y a la petite promo personnelle. Map Stories, Histoire de Cat, une vingtaine de récits qui nous font découvrir comment certains des lieux les plus beaux de la planète ont été découverts, dont on a parlé au grand public. Voilà, d'autres livres à découvrir, tout son univers, c'est sur francescamatteoli.com.
Francescamatteoli.com. Allez, justement, on parlait de photographie tout à l'heure, là aussi pour les amateurs photographes, une belle idée.
Oui, avec le magazine W et puis, Hugo Boss, voilà, je ne retrouvais plus, Hugo Boss et W Magazine qui se sont réunis pour créer un concours photo qui s'appelle The Shot et qui propose à tous les gens partout dans le monde dès 18 ans d'envoyer maximum 3 de leurs clichés, évidemment techniquement superbement réalisés avec évidemment beaucoup d'idées, de créativité. Et ce concours va permettre en tout cas au lauréat qui sera annoncé en mai de gagner soit une série mode qui sera publiée dans le magazine au mois de septembre prochain, une éventuelle collaboration avec Hugo Boss et puis une petite soirée pendant la Fashion Week de New York. Le jury est assez prestigieux, on a le rédacteur en chef de W, le directeur artistique de la maison Hugo Boss, d'autres, des photographes. Donc c'est une vraie plateforme, pourquoi pas, pour ces jeunes photographes de mode.
Et on en a juste, on peut y participer jusqu'au 30 avril.
Tout à fait.
Et c'est noté pour The Shot. Et puis un petit peu de musique pour terminer.
Ouais, un petit peu de musique, direction Apple Music et la chaîne Colette. On en avait parlé en septembre dernier, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Burberry avait été la première maison de luxe à proposer sa chaîne Apple Music. Il a aidé Colette à le faire. Colette, je ne le présente pas évidemment,
le concept store, de la rue Saint-Honoré.
Donc il lui a créé une playlist, 15 morceaux du classique avec Bowie, The Cure, les Stones. Et puis il y a des nouveautés là, ce qu'on entend, je ne sais pas si vous l'entendez, il y a Flo Morisset, ça s'appelle Tomorrow Will Be Beautiful. Il y en a d'autres, il y a Jack Bug, Lila Vargen, Ed Harcourt, d'autres jeunes talents comme ça qu'on découvre. C'est vraiment plaisant. Et c'est sur la chaîne Apple Music de Colette.
Merci, un petit pas de danse pour terminer, Sandy.
Un petit pas de danse, vous voulez? Mais sur ça, c'est un peu...
Oh,
pas mal. Merci infiniment, Sandy.
À la semaine prochaine.
Allez, Emmanuel, on continue avec une petite boutique.
Petite boutique. Nous sommes dans le 17e rue Meissonnier, exactement au numéro 8 de la rue Meissonnier. Ça s'appelle le Garde-Manger, encore la gastronomie, à la fois épicerie fine, le soir cave à manger. Vous pourriez me dire, oui, une boutique de plus. Alors, délicieuse, parce qu'ils ont gardé et su garder le décor d'antan de jadis et de naquère. Lorsque vous pénétrerez cette boutique, qui a été joliment redesignée, montée et levée un petit peu les yeux au plafond, le pavillon est super, c'est une verrière belle époque. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça réinvente un petit peu ce qu'était le comestible au début du 20e siècle. C'est-à-dire une façon de traiteur, mais c'est une jeune chef. Elle a une jeune fille qui s'appelle Portelli, d'origine italienne, qui a fait ses classes dans plein de grands restaurants, et qui là vous propose des plats véritablement à emporter pour votre chez vous. Alors vous savez, le service traiteur, généralement,
ça,
on a des plats
pratiques. Où est-ce qu'elle se trouve?
C'est rue Meissonnier dans le 17e. Mais là, vous avez vraiment des plats de cuisinier, des plats en cocotte, des plats mijotés. Pour vous faire saliver, vous allez avoir un veau mijoté à la tomate, la blaquette façon Maigret. Vous avez aussi des travers de porc au miel, un roast beef tranché en chiffonnade. Tous ces plats-là, vous pouvez les emporter, c'est plus qu'à réchauffer. Le service traiteur, généralement, on est plus dans un univers charcutier. Ouais. Ou au mieux, vous allez avoir la tomate farcie.
Ça s'appelle
là, c'est
le
super
garde-manger.
Bien. Et jusque tard le soir.
Très bien,
le garde-manger
7h, 23h.
Avec une cave qui accompagne joliment. Et cette fille est sympathique, sémillante. C'est les nouvelles jeunes mères parisiennes, la Portelli au garde-manger.
Et quand on aura bien mangé, il faudra un peu aller se faire chouchouter, s'occuper de nous. Et donc là, vous allez au Plaza Athénée, l'Institut Dior. Il a été totalement refait. Il était installé là depuis 10 ans, mais là, ils l'ont refait plutôt couleur champagne, encore plus luxueux, des panneaux de boiserie, cérusé or, un plafond en miroir pavé, éclat de cristaux, enfin bref, joue totale. Et surtout, il y a beaucoup de techniques et une nouvelle méthode de modelage tissulaire exclusive à Dior qui intègre le nouveau grand soin visage Dior Prestige. Et après ça, vous ressortez, vous n'êtes plus la même.
S'ils le disent.
Vous n'êtes plus le même.
S'ils le disent.
Mais tout à fait. Donc non, en tout cas, c'est le Dior Institut.
Je peux vous dire
rénové.
Que les mijotés...
au Plaza Athénée. On termine rapidement avec l'objet de la semaine. Un sac de sport. Il s'appelle Saint-Augustin. Il est réalisé par Anonyme Paris.
C'est un sac de sport.
Bien sûr, c'est un sac de sport.
J'ai cru que c'était de la bagagerie haut de gamme, moi.
Mais non, il est beau. On peut mettre plein de choses dedans. Il est en cuir. La petite ligne rouge, le petit liseré rouge, c'est la signature d'Anonyme Paris. Et sur le côté, qu'est-ce que vous avez? Parfois, vous avez juste une petite poche, là, comme ça, avec une fermeture éclair. Mais là, vous avez une vraie fermeture éclair sur le côté. Vous l'ouvrez. Et là, c'est là que ça devient super intelligent. Parce qu'à l'intérieur, c'est un compartiment pour ranger vos baskets.
Ça, c'est bien.
À chaque fois, vous les mettez dans le sac sale. Et là, évidemment, ce sont aussi des baskets Anonyme Paris en beau cuir blanc avec la petite fermeture éclair rouge qui va avec derrière.
Ah, ça, c'est
juste. On retrouve le code couleur et le code fermeture éclair du sac. C'est pas chic, ça?
C'est surtout bien vu.
Enfin,
pour les gens qui font du sport, c'est hyper pratique.
Je suis d'accord avec vous.
En revanche, disons, il faut mieux avoir un casier qui ferme dans le vestiaire parce que c'est un bel objet.
Parce que c'est un très bel objet, 2500 euros chez Anonyme Paris.
Mais c'est en cuir,
avec de beaux matériaux, c'est fait en France.
Faut courir le marathon pour amortir
et voilà,
tout ça.
Et la fête des pères. Pensez à la fête des pères, Emmanuel. Faites le...
Dans quelques mois. On n'est jamais si bien servi par soi-même.
Et ça s'appelle le sac Saint-Augustin.
Eh bien, merci Karine. Avec un peu d'avance, c'est bon. Je vais me mettre au sport.
Allez, on fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve tout de suite. On part pour l'hôtel de la Marine et à des collections.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et des goûts de luxe à l'hôtel de la Marine. Cette semaine jusqu'au 10 avril se tient l'exposition à des collections. L'occasion de découvrir des architectes, des designers, des artisans qui ont travaillé sur le mobilier et quelques objets des arts décoratifs du 21e siècle. Nous sommes en compagnie de Marc Bayard. Bonjour.
Bonjour.
Responsable du développement scientifique et culturel du mobilier national qui est partenaire de cette exposition. Michel Bismuth, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte designer, fondateur de Bismuth et Bismuth avec votre frère Fabrice Osset, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également architecte designer. Et Erwan Boulou, bonjour.
Bonjour.
Designer, sculpteur. Et vous avez tous les trois réalisé 3 œuvres, parce que c'est ce que vous aviez le droit de faire, 3 œuvres pour cette exposition.
3 œuvres par personne.
3 œuvres chacun.
Trois œuvres. Ça fait déjà 9 sur place.
Pour à des collections. Ça se passe donc à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, à Paris. Il faut rappeler, finalement, on rend à l'hôtel de la Marine L'une de ses attributions, puisqu'en 1784, si je ne m'abuse, c'était le garde-meuble royal.
Tout à fait. On rend à César ce qui appartient à César, si je puis dire, puisque pendant 20 ans, au XVIIIe siècle, le bâtiment a été construit par Louis XV pour être le garde-meuble de la couronne. Et le mobilier national, actuellement, est toujours l'héritier de ce garde-meuble de la couronne. Il est devenu garde-meuble de la République en s'appelant mobilier national. Mais depuis trois siècles, et depuis le XVIIIe siècle en particulier, nous fabriquons tapis, tapisserie et meubles. Et donc c'était une manière de la part de la revue AD de nous ouvrir aussi, de nous permettre avec le CMN, le Centre des Monuments Nationaux, de revenir un petit peu pendant quelques jours dans ces locaux qui étaient conçus dès l'origine comme un lieu de monstration. On l'a oublié, c'est un des premiers musées des arts décoratifs au XVIIIe siècle où on pouvait voir les plus beaux bijoux de la couronne, les plus beaux meubles qui étaient en service dans la monarchie.
Alors, je suis un peu trompée dans les dates, c'est 1774 exactement, mais c'est vrai que c'était ouvert régulièrement au peuple. À l'époque, on pouvait aller découvrir tout ça. Donc là, c'est la même idée.
C'est qu'à l'occasion, non seulement on rend hommage au patrimoine, à la genèse du lieu, mais c'est vrai qu'il est plutôt fermé depuis des années même.
Bien sûr,
l'armée s'était installée. C'était le ministère de la Marine.
Oui, tout à fait.
Mais on peut aujourd'hui, en tout cas le temps de cette exposition, entrouvrir un peu de ses portes avant une ouverture qui est promise au public, je crois, en 2018.
Oui, alors là,
avec plusieurs projets, notamment un musée de la gastronomie.
Tout à fait, ça va être fermé pour travaux et avant fermeture, c'est pour ça que c'est vraiment une occasion extraordinaire. À la fois de voir ces lieux, mais aussi de découvrir quand même peut-être les meilleurs designers du moment, donc de retrouver dans cet écrin quelque chose de très contemporain. Donc c'est tout l'intérêt de l'opération, c'est montrer le passage d'hier et d'aujourd'hui et demain, que va devenir demain cet endroit. Là il y a un beau trait d'union à accentuer.
Et après ça reviendra aux mains du Centre des Monuments Nationaux, effectivement, qui après de grands travaux, parce qu'il y a quand même quelques travaux à faire, le rouvrira en 2018. Donc une fois qu'on a dit ça, AD Collections, c'est la deuxième édition, c'est le magazine AD, magazine de décoration qui a lancé ça. L'idée de départ, c'est vraiment de mélanger le savoir-faire et l'aspect créatif des créateurs, les galeries, des gens comme le Mobilier National pour mettre en avant les arts déco.
Oui, je crois que aussi bien AD que Mobilier National, notre enjeu et de tous les artisans et designers, c'est l'art de vivre à la française. C'est vrai qu'on oublie un petit peu ce génie français qui remonte à la Renaissance. Notre grande valeur à côté des Italiens qui ont inventé la perspective, nous, c'était les arts décoratifs, qui va depuis des tapis, tapisseries, meubles et autres. Et là, c'est justement cette revue met en avant ce génie créatif actuel qui, derrière, fait vivre et fait travailler beaucoup d'artisans, puisque ces meubles ne sont pas faits en machine en trois minutes, mais elles demandent une expertise, elles demandent des matériaux, elles demandent des savoir-faire qui sont très compliqués, très complexes. Et rappeler aussi que cette opération de AD s'inscrit dans les journées européennes des métiers d'art. On commence aujourd'hui,
1er, 2, 3 avril.
Voilà. Donc c'est aussi cette valorisation de tous ces savoir-faire, de ce génie et de ses mains, l'esprit et la main qui sont réunis pendant ces quelques jours et dans ce lieu de l'hôtel de la Marine.
Avec une focale supplémentaire qui est celle du 21e siècle. Alors on va voir avec nos invités qu'est-ce qu'on entend par mobilier du 21e siècle. Mais première petite réponse, c'est quoi un meuble du 21e siècle?
Alors, pour le mobilier national,
c'est du 17e, du 18e.
Pour le mobilier national, c'est un meuble du pouvoir. C'est servir.
C'est votre mission.
Nous fabriquons pour les palais de la République et pour justement servir un certain prestige, une certaine marque française. C'est vrai qu'il faut savoir que quand un chef d'État vient en France, il est accueilli de façon assez unique par une manière de déambuler dans des lieux, de manière de manger. Et ça, c'est derrière des industries du luxe et des architectes d'intérieur qui vont aussi reprendre ce savoir-faire.
Il y a aussi plus de 200 000 objets au Mobilier National. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, vous avez aussi, et c'est là-dessus que vous avez travaillé, c'est avec l'atelier de recherche et de création. Oui. Vous avez travaillé avec Noé Duchaufour Laurence pour présenter une pièce à des collections. Et effectivement, quand on dit une pièce du 21e siècle, c'est que c'est vrai, l'image du Mobilier National semble un petit peu passéiste, toujours. Mais là,
c'est le mot national. canal.
Démonstration.
C'est idiot.
Parlez-nous d'un mot de cette table. Alors, démonstration.
En fait, ce qui est peu connu, c'est que depuis 4 siècles, on ne fait que de la création contemporaine. Et on ne fait que du tapisserie, meubles contemporains. On ne fait jamais de réédition ancienne. Donc le côté poussiéreux, c'est le côté historique. Et justement, avec le nouveau directeur Hervé Barbaret, l'idée, c'est d'ouvrir encore plus, d'ouvrir le prochainement, on espère, les sites des Gobelins, mais aussi une ouverture de politique artistique. Et là, par exemple, le meuble de Noé du Chauffour Laurent, c'est un meuble particulièrement complexe à mettre en place, qui paraît simple, mais c'était de faire...
Oui, parce que finalement, c'est une table avec un drap jeté dessus.
Voilà. Alors, le drap a été très compliqué à faire, puisque l'idée, c'était de faire une coque en lin blanc. Le problème, c'est que le lin n'est pas blanc. Donc, en fait, on a trouvé une solution au bout. C'est une coque de lin, mais recouverte de cuir blanc. Et donc, ça a demandé un certain nombre de mois de recherche pour arriver, avec des échecs, mais aussi avec des réussites, pour arriver à ce meuble qui paraît très simple. Vous connaissez le principe de la grâce, c'est une chose très compliquée.
Avec plus difficile que la force des évidences.
Et c'est cette chose, ces meubles qui ont l'air tout évidents, sont en fait derrière les ébénistes de l'atelier recherche et création ont mis plusieurs mois pour arriver.
Mais c'est ça aussi l'idée d'Adé Collection, c'est qu'on est plus sur des œuvres d'art, sur des œuvres uniques. Erwan Goulou, quand on vient vous voir pour Adé Collection, on disait c'est 3 œuvres chacun. Est-ce que le brief s'arrête là? Est-ce que vous pouvez aller où vous le souhaitez après? Et vous venez avec vos savoir-faire et vos envies? Ou est-ce qu'il y a des suggestions spécifiques?
Non, il y a juste, on donne une notion de dimension qui était par rapport à la scénographie, mais sinon c'est complètement libre, il ne demande pas du tout de voir en avance même ce qu'on va faire. De toute façon, c'est dans la continuité du travail qu'on fait habituellement. En général, ils connaissent déjà.
Donc il y a une manière de présélection pour en revenir d'ailleurs.
Il y a quand même un historique, donc ils savent à peu près ce qu'on va faire, mais on ne m'a pas donné plus de...
Donc juste pour dresser un peu votre portrait, pour savoir ce qu'on va découvrir, vous avez fait l'école Boulle en 95. Vous, votre truc au départ, c'est vraiment le métal. D'ailleurs, vous avez commencé comme socleur pour les musées. Donc du coup, vous êtes plutôt designer-sculpteur. Vous avez votre atelier à Pantin. Vous maniez vous-même, vous travaillez, vous fabriquez tout, notamment le métal, mais pas seulement. Qu'est-ce que c'est Métempsychose 2 ?
C'est la pièce qu'on a fait pour cette exposition. C'est un grand secrétaire. Métempsychose, c'est parce que j'ai travaillé aussi avec mon ancien établi qui avait plein de stigmates du travail qu'on a fait pendant des années dessus. Et finalement, je trouvais ça très intéressant et super joli aussi. Et du coup, la métempsychose, c'est ce moment où l'âme passe d'un corps à l'autre. C'est pour ça que je l'ai appelé comme ça, parce qu'on a à l'intérieur de ces deux portes qui sont faites avec l'établi quelque chose de très travaillé, très ciselé, très fin, assez précieux, et qui est caché par ces portes qui sont fermées, qui ont un aspect très brut. Et donc ces deux graphismes qui sont très différents, mais qui sont intimement liés.
Et quel matériau vous avez utilisé ?
Alors on est à l'intérieur sur acier, inox, avec un intérieur un petit peu de cuir, et l'extérieur donc c'est du bois.
Et combien de temps pour réaliser une pièce comme celle-ci ?
On est à, je crois, 300 heures, à peu près.
Ça donne un petit peu une idée du travail.
Mais justement, vous, quand on vous parle de 21e siècle, qu'est-ce qui obéit à la notion du 20e siècle ? Est-ce que c'est de travailler des nouvelles matières ? On a parlé de recherche, manière de recherche-développement. Est-ce que c'est des nouvelles utilités, des nouvelles manières d'utilisation qu'on peut offrir à un objet ? Ou bien peut-être une dimension artistique désormais assumée et pas artisanale ? Historiquement, les artisans qui ont pu faire des œuvres d'art ou reconnues comme telles aujourd'hui n'avaient pas ce manifeste-là. Aujourd'hui, on sent de plus en plus des designers, des architectes qui revendiquent pleinement le fait d'être des artistes.
Oui,
en tout cas, d'avoir cette dimension-là.
Je pense que ça, c'est assez singulier. On est quand même dans la continuité du XXe siècle. Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment une rupture entre le XXe siècle et le XXIe siècle, avec cette espèce de liberté de dessin. Mais au XXIe siècle, là, maintenant, depuis quelques années, il y a quand même des technologies qui sont numériques, notamment, qui sont très, très intéressantes et qu'on peut associer assez facilement à un travail artisanal plus traditionnel. Et ça va très bien ensemble. Donc je pense que le 21e siècle, c'est ça. Il y a aussi cette notion de tradition numérique.
Transversalité.
Voilà.
Et pour la suite, et vos autres meubles, et ceux également de Fabrice Ossa ou Michel Bismuth, on fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve juste après, donc à l'Hôtel de la Marine, pour Adé Collection.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniol et Emmanuel Rubin.
Et quand les Arts Déco s'invitent à l'hôtel de la Marine grâce à des collections, Good Luxe lui consacre une émission, leur consacre une émission. Mais nous sommes toujours en compagnie de Marc Maillard, responsable du développement scientifique et culturel du mobilier national, de Michel Bismuth, architecte designer, fondateur de Bismuth et Bismuth, de Fabrice Ausset, architecte designer, et d'Erwan Boulou, designer sculpteur. Alors on a commencé par voir un petit peu avec vous, Erwan Boulou, ce que vous aviez fait. On a dit, c'est trois objets, et quels objets, 300 heures de travail pour le premier dont vous nous parliez tout à l'heure pour AD Collection. Fabrice Ausset, je le disais, vous êtes architecte designer, mais aussi coloriste, sculpteur. Vous avez créé votre agence en 1987. Vous aussi, vous avez dû réaliser trois pièces pour AD Collection. Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs.
Non, c'est la deuxième fois. Cette fois-ci, j'ai choisi trois objets que je n'avais pas réalisés jusqu'à présent. Donc un lampadaire, parce que je n'avais jamais fait de lampadaire. J'ai choisi justement des choses un peu nouvelles. Un paravent psyché. Alors là, c'est un objet un petit peu spécial parce que une psyché, je crois que plus personne ne sait ce que c'est aujourd'hui.
Vous avez déjà donné la définition.
Alors la psyché, c'est un miroir en fait, un miroir de pied qui est souvent mobile. Je pense que c'est comme ça que le mobilier peut-être le définirait. Et puis un fauteuil. Donc le fauteuil, ça c'est plus classique. Moi, j'avais jamais fait de fauteuil en métal et je m'étais dit que c'était l'occasion de travailler le métal et surtout travailler métal avec des technologies, comme disait Erwan tout à l'heure, avec des nouvelles technologies.
C'est ça, parce que celle du 21e siècle, quoi. Le fauteuil à oreille, resting mind.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, exactement.
Alors. Pas évident de raconter son propre travail à l'oral.
C'est pas évident, mais ce que j'essaie, c'est de pas faire des choses trop faciles. En fait, j'essaie plutôt d'aller me frotter à la difficulté, même si l'objet à la fin n'est pas forcément intéressant et n'est pas forcément du goût de tout le monde. En tout cas, moi, la démarche m'intéresse et dans la mesure du possible, c'est-à-dire dans la mesure où j'ai des financements, j'essaie d'aller chercher des objets un peu atypiques. Alors le fauteuil resting mind, c'est le fauteuil à oreille. Moi, j'ai pas inventé le fauteuil à oreille. Ce que j'ai inventé, en revanche, et c'est pas une invention, c'est simplement une idée d'assemblage. Le fauteuil est en deux morceaux, c'est-à-dire que c'est un tabouret sur lequel on vient accrocher un dossier. Alors ça, si on voit l'objet et si on ne le sait pas, c'est pas évident de le comprendre. Mais bon, la partie basse est en cuir, la partie haute est en métal, et c'est une dentelle de métal, le métal attaqué à l'acide, en fait. C'est-à-dire que c'est un principe d'origami, c'est-à-dire qu'on prend une feuille qu'on plie, et cette feuille est elle-même attaquée à l'acide, et donc elle est recomposée. Donc techniquement, c'est assez compliqué, parce que ça demande de faire des pièces, d'avoir des pièces développées, et donc ça demande des techniques un peu de nouvelles technologies.
Mais quand on a des technologies pareilles, j'imagine que tout le travail entre le dessin, c'est aussi avoir des éditeurs derrière. Une pareille pièce, c'est compliqué à mettre en place, et j'imagine à éditer encore plus.
Oui. Mais en fait, l'édition n'est pas une finalité. C'est-à-dire que moi, il y a des pièces que je réalise parce que ça me fait plaisir, parce que je trouve que l'objet est intéressant. Et d'ailleurs, la seule chose qui me porte à aller faire une deuxième, un numéro 2, voire un numéro 3, c'est évidemment quand j'ai fait la pièce numéro 1, tout de suite, je vois ce que je voudrais améliorer, comment je voudrais l'améliorer pour...
Mais pour rebondir sur les financements, ce que disait Emmanuel à l'instant, ce que vous disiez, Fabrice Ausset, c'est que grâce à des collections... Vous pouvez réaliser des pièces. C'est ça aussi, c'est grâce au partenariat, c'est grâce au mobilier national. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez, parce que tout ça, ça coûte cher, c'est ce que vous nous disiez.
Oui, l'intérêt, c'est de trouver des éditeurs, et c'est l'occasion de trouver des éditeurs. C'est-à-dire, soit vous avez votre éditeur avant, et effectivement, c'est facile, parce que vous savez, grosso modo, dans quelle fourchette de prix vous allez.
Donc, c'est un cadrage.
Voilà, un cadrage. Soit, pendant la présentation, les galeries s'approchent de vous et vous disent, voilà, moi, je suis intéressé.
Donc, c'est votre vitrine, en fait, là.
C'est une vitrine, oui, tout à fait. C'est une vitrine et c'est en même temps une façon de travailler avec des entreprises, de découvrir de nouvelles entreprises. Et cette année, sur mes trois pièces, qui sont trois pièces relativement techniques, j'ai changé de typologie de partenaires entreprises.
Donc, pour mettre en accord entre l'idée que vous aviez et le... c'est intéressant, je suis un peu obnubilé par l'idée du 21e siècle, et vous venez de le dire, vous avez entre autres travail composé une pièce paravent psyché. C'est une pièce, on avait oublié la définition et qu'on ne voit plus dans les intérieurs, ou très peu. Alors comment vous avez concilié cette idée d'une pièce quasiment disparue, peut-être parce que sa fonctionnalité n'existe plus ou qu'on l'a oubliée, et le 21e siècle? Ce qui vous a poussé finalement à prendre une pièce qui était un petit peu au grenier de mémoire.
Alors c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est à la fois entre l'artisanat et l'art. C'est-à-dire que, évidemment, un paravent psyché, la fonctionnalité est toute relative.
Si vous mettez ça à l'intérieur de Karine, narcissique comme elle est, elle saura s'en servir.
On va venir l'essayer place de la Concorde. L'idée, c'est effectivement d'avoir cet objet qui a cette double fonctionnalité. L'idée du paravent, qui est quand même un objet un peu ringard, on va dire. C'est pas bon, c'est un objet qui est plutôt fonctionnel et souvent esthétiquement maltraité ou en tout cas délaissé. Donc cette première partie, la deuxième partie, la partie psyché, qui là au contraire est plus intéressante puisque bon, un miroir en pied, c'est pas révolutionnaire, mais c'était l'idée d'associer cet objet. Cet objet est articulé, donc il se replie. C'est une coque. Le nom, c'est Deep Bark, ça veut dire écorce profonde. C'est un jeu sur l'écorce, la matière du bois de l'extérieur, qui est effectivement en cèdre de 4 cm d'épaisseur, qui est découpé avec un outil numérique et qui donne cet aspect à la fois géométrique, mais en même temps qui ressemble beaucoup à l'écorce d'un chêne. Et à l'intérieur, tout l'ensemble des panneaux sont en inox poli, avec une impression de type imprimante, c'est-à-dire c'est là on a un outil technologique assez peu utilisé.
Évoquait Erwan tout à l'heure. Tout à fait. L'arrivée aussi des nouvelles technologies numériques, ouais, ou des trois dimensions de l'ordinateur quelque part.
Et donc on a ce graphisme dans cet objet, et en fait c'est un cocon, c'est-à-dire qu'on referme l'objet sur soi et on peut se mettre à l'intérieur et se voir sous toutes les coutures.
Moi je dis le mieux c'est d'aller voir l'hôtel de la Marine, parce que c'est bien de décrire, parce qu'on sent tout votre travail derrière. Est-ce que vous nous expliquez aussi les correspondances entre l'artisanat, la création, le numérique, mais pour s'en rendre compte, il faut aller bien sûr à l'hôtel de la Marine. Michel Bismuth, Bismuth et Bismuth, c'est une histoire qui date de 1987, ça remonte déjà, oui. Avec votre frère, vous avez fait des boutiques de luxe, vous avez même fait des Club Med, vous avez fait aussi une table composée qui a intégré les collections nationales au musée des Arts Déco, vous travaillez sur un yacht en ce moment, voilà, ça c'est pour donner un petit peu, mais j'aurais pu à peu près faire la même chose chez Fabrice Osset, c'est pour donner un petit peu l'étendue de votre travail et de votre vision des choses. Là, pour AD Collection, une table basse, une applique et une chaise longue. On parle de celle-ci, la chaise longue ?
Oui, alors l'idée, c'était déjà d'avoir un environnement assez, quelque chose de convivial. Donc, à partir du moment où on a un fauteuil, une table basse et un...
C'est un univers, en fait.
Ouais, c'est un univers qui est recréé. On a eu toujours beaucoup de difficultés à dessiner des sièges. Les sièges, c'est un exercice très, très compliqué parce que dans un siège, il y a des pieds, c'est toujours difficile de mettre des proportions sur ces éléments-là. Donc, on a eu vraiment envie de nous y frotter. Donc, on a essayé de le faire avec humour. Elle s'appelle Very Hairy. C'est un élément très très structuré, très linéaire, et tout d'un coup avec une assise extrêmement fournie, décoiffée.
Il y a quand même des longs poils d'agneau qui tombent le long. Ouais. Et en même temps, tout ça repose sur une tubulaire en inox assez fine.
Voilà, donc c'est cet élément structurel, c'est l'inox effectivement, qui se finit un petit peu. Alors on avait cette idée de... il y a certaines baleines qui ont des dents, je ne sais plus comment. Et c'est un peu la bouche de la baleine qui s'ouvre, donc l'extrémité de ce fauteuil est comme ça, avec ces espèces de dents très, très, très marquées, très, très fines. Et ce qui donne l'amorce du dossier qui se relève.
J'ai une question idiote, mais que j'aurais pu vous poser à tous les deux rois. Est-ce qu'elle est faite pour être utilisée ? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser ? Cette chaise longue, ou finalement, quand vous réfléchissez à ces créations, comme on disait tout à l'heure, c'est une vitrine pour AD Collection. Donc, vous allez jusqu'au bout de vos envies créatives, de votre savoir-faire, de ce que vous pouvez réaliser. Et finalement, l'aspect fonctionnel, il est presque anecdotique.
Nous, tout ce qu'on crée, ce qu'on imagine, c'est nécessairement, on va l'utiliser. Vous en parliez tout à l'heure, on a une activité on est architecte, et on a une activité très très transversale. Ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur toutes les échelles. Les projets sur lesquels on travaille en ce moment, c'est un bâtiment, c'est la construction d'un immeuble de bureaux, ce sont des maisons, c'est un bateau, et on a jusqu'à justement des canapés, une applique. Donc c'est ce travail sur des échelles différentes qui nous interpelle, qui nous intéresse. Ensuite, c'est un travail sur les proportions, donc que la proportion soit bonne sur un immeuble ou sur une applique, c'est le même sujet. Et il y a tout un travail sur la matière, sur la lumière, sur les proportions qui est essentiel. Tout le sujet est là. Ensuite, quand cet objectif est atteint, la pièce est réussie. Donc les pièces qu'on dessine, elles vont s'intégrer dans des espaces qu'on aura imaginés.
Mais justement, quand vous travaillez pour AD Collection, je reviens à ma question sur cette chaise longue-là, pour vous, elle est destinée peut-être à intégrer un intérieur que vous aurez dessiné et être vraiment utilisable et fonctionnel, ou est-ce que finalement c'est voilà ce que l'on sait faire, c'est une vitrine
Et là, pour le coup, la professionnalité...
C'est public de s'y retrouver ou pas.
Ouais, c'est un peu des deux. C'est un peu des deux.
Erwan,
moi, je trouve que la fonctionnalité, c'est quand même important. C'est des fois secondaire dans le dessin, mais au moment de la traiter, j'essaie quand même toujours de faire en sorte que ça fonctionne bien. C'est pas forcément la base du dessin. Mais j'essaie toujours de faire en sorte que ça marche.
Qu'on puisse ouvrir les portes et les refermer.
Et s'en servir. Et s'en servir vraiment.
Véritablement.
Ouais.
Parce que du coup, c'est ce que vous aimez aussi, ça permet de faire vivre.
Et puis c'est un défi technique aussi qui est intéressant. C'est la différence avec la sculpture. Mm-hmm. C'est la fonction. Donc,
Marc Bayard.
Oui, peut-être par rapport à la réponse à la question qu'est-ce que le design du 21e siècle, peut-être se poser la question que le 20e siècle a été un siècle de l'espace, la conquête de l'espace, peut-être que le 21e siècle c'est le siècle du temps. Goût du luxe, puisque c'est l'ambition, c'est prendre le temps. Et dans toute la question des objets, c'est là aussi tout ce processus de fabrication, et c'est ce qui est montré chez AD Collection, c'est que tous ces objets ont pris beaucoup de temps, avec des matériaux, des savoir-faire derrière, et c'est peut-être ça le design du 21e siècle, non plus être dans la pérennité programmée, mais être plutôt dans la pérennité programmée que l'obsolescence, et voir le temps comme quelque chose de positif et pas comme quelque chose de...
Et puis aussi, mais sous votre gouverne, vous êtes aussi un peu le garant d'une certaine mémoire avec le DSL. Même si c'est né, je pense, avec l'arrivée des designers au XXe siècle et des artistes qui croisaient eux-mêmes au champ... Picasso a aussi fait de la céramique. Et on a vu beaucoup de designers qui allaient sur plein de terrains. Mais aujourd'hui, c'est très affirmé de la part de toute cette génération. D'ailleurs, on les entend. Ils touchent à tout. Ils ne s'interdisent pas un yacht, un hôtel, une psyché, demain un piano, les frontières assumées, on y revient avec l'art artistique. C'est peut-être ça aussi le designer du 21e siècle, c'est que ça sera un designer tout terrain, ce qui n'interdit pas le temps, le travail, le savoir-faire, mais une audace, vraiment, on va dire, presque un panache, c'est des hussards, quoi. Ils ont peur, vous avez peur de rien. Moi, c'est ce que je trouve assez bluffant avec cette génération décomplexée. En espérant que le public suive, il suit finalement. Mais s'il ne suit pas, tant pis, ils y vont quand même.
Il suit à partir du moment où on lui dit comment c'est fait. Il ne suit plus lorsque c'est un produit qui arrive, quel qu'il soit, que ce soit la nourriture ou des objets, quand il ne comprend pas comment ça marche.
Ça, il l'exprime bien. Voilà, et comme ça rejoint ce que disait Erwan, sur la fonctionnalité, à la fin, il y a quand même ce désir de fonctionnalité.
Oui, ensuite, ces pièces se vendent. Il faut avoir ça en tête. Donc tout ce qu'on produit, il y a des amateurs qui vont acheter. Alors ensuite, ce sont des pièces qui sont soit en série extrêmement limitée, soit des pièces uniques ou en série limitée. En ce qui nous concerne, c'est des 8 plus 4. Elles se vendent. Donc nous, régulièrement, nous avons des amateurs qui les intègrent dans leur environnement. Ce qui est intéressant à travers tout ce... On a l'impression qu'il y a une nouvelle mode pour les pièces comme ça d'édition limitée. C'est que aujourd'hui, les amateurs ont compris qu'ils pouvaient avoir des environnements, des intérieurs un petit peu différents et qu'ils puissent s'approprier différemment et sortir des pièces de fabricants qui sont assez répétitives. Donc nous, on offre cette possibilité de s'offrir à des prix qui ne sont pas complètement farfelus des pièces un peu assez uniques.
D'ailleurs, 6 avril, vente Piazza de quelques-unes des réalisations ou une grande partie des réalisations réalisées justement, une grande partie des objets, on va dire, réalisés pour AD Collection, ce sera plus français. Fabrice Osset, justement, on n'a peut-être pas signalé tout à l'heure ceux avec lesquels vous avez travaillé, le groupe Chastanier.
Bon, Chastanier,
Urel, l'atelier Pictet.
L'atelier Pictet, Pouena, les éditeurs classiques, hein, je pense que mes confrères ici présents les connaissent aussi bien que moi. C'est effectivement des gens passionnés et c'est le plaisir de pouvoir partager avec des gens passionnés la création d'un bébé, la mise au monde d'un bébé, de pouvoir découvrir avec chacun le verre, le textile, effectivement, la pierre, des traitements de pierre, des nouveaux traitements sur le bois, des nouvelles applications. Donc ça, c'est la richesse de l'artisan qui vient apporter un angle que parfois on n'a pas toujours vu, mais que lui voit tous les jours. Et donc c'est la réunion de ces deux, de la partie création et de la partie exécution qui fait la qualité et la beauté de l'objet.
Effectivement, c'est ce que vous disiez, sans eux on ne pourrait pas avancer. De même que la galerie Glustin, Erwan Boulou, elle vous aide aussi justement à la réalisation, plutôt pour le côté visibilité.
Bah, elle m'aide surtout pour le côté vente. Hein.
Bah, c'est ça, on va dire les choses.
Heureusement qu'il y a le sont là, moi, parce que je travaille beaucoup sur commande. Et ça nous permet de travailler toute l'année sur la création et d'avoir l'assurance derrière d'un financement.
Un petit mot, peut-être pour finir, tous ces événements, notamment celui de AD dans quelques jours, mais vous le dites, les galeries. Parlons du public, on a beaucoup parlé de vous, mais moi j'ai le sentiment, c'est très personnel, vous allez me répondre et me donner votre avis, justement que le public est en train de maturer, de grandir, n'a peut-être pas toujours les moyens de s'offrir ses pièces, pas toujours, mais en tout cas il est curieux, il a envie, il va à la pièce unique, il veut bousculer son intérieur, en tout cas c'est une audace qu'il partage avec vous, oui, non, ou est-ce qu'il est encore un peu frileux, un petit peu impressionné par votre travail? J'ai l'impression qu'il est de plus en plus mature. Allez, Fabrice.
Le public, il découvre, donc il a la chance d'avoir des médias qui lui apportent toute une série d'informations. Et donc se dire qu'aujourd'hui, à un prix relativement accessible, on va dire, on peut avoir une pièce unique, ça c'est quand même une grande satisfaction. C'est-à-dire qu'on partage avec le créateur et on partage avec le fabricant la chance d'avoir un objet qui est un objet de qualité, qui est un objet entre l'artisanat et l'art et à un prix assez raisonnable par rapport à l'investissement que ça représente.
Mais pour rebondir sur l'histoire du XXIe siècle, si aussi on arrive à avoir des prix assez contrôlés, c'est que justement il y a toute une technologie qui s'est mise en place, qui nous permet et qui nous offre de nouvelles possibilités et d'explorer de nouveaux champs. Et grâce à ça, on peut proposer des pièces différentes, des choses qu'on n'aurait pas pu faire avant. Donc c'est pour revenir à ce qu'on disait au départ.
Et pour terminer, votre atelier de Pantin, Ernouloulou, vous l'ouvrez? De temps en temps, on peut venir
Jusqu'à maintenant, je ne l'ouvre pas.
On ne peut pas déranger l'artiste.
Non, mais parce qu'il n'était pas vraiment présentable. Mais...
non, parce que ça aussi, du coup, ça fait partie des demandes. Et justement, puisqu'on est dans le cadre des journées européennes des métiers d'art, c'est aussi l'idée de...
C'était un endroit où je n'étais pas tout seul, c'était un peu compliqué. Mais là, on déménage au printemps dans un nouvel atelier à Montreuil. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on pourra l'ouvrir.
Un grand rayonnement des ateliers de Montreuil, là aussi. Il y a comme ça des spots d'ateliers.
Pantin, c'est les ateliers d'art, ceci.
Une politique très dynamique sur l'artisanat d'art aussi. Mais...
Merci infiniment à vous. En attendant, on ira...
Et n'oublions pas le 13e, oui, les gobelins.
Ah oui.
La manufacture.
En attendant, on vous retrouve tous, en tout cas, toutes vos réalisations à l'Hôtel de la Marine. C'est jusqu'au 10 avril, c'est l'exposition AD Collection. Merci beaucoup à vous, Erwan Boulou, designer, sculpteur, Fabrice Osset, architecte, designer, Michel Bismuth, architecte, designer, c'est Bismuth et Bismuth, et Marc Bayard, responsable du développement scientifique et culturel du mobilier national, et bien sûr, le magazine AD et AD Collection pour découvrir tous ces savoir-faire et ces beaux objets, parce qu'on en a reçu 3 aujourd'hui, mais il y en a à peu près 37 autres,
c'est ça,
qui ont créé quelques meubles et objets à voir durant cette exposition. Merci beaucoup à tous les 4. Restez avec nous. Good Luxe continue dans un instant, c'est l'agenda.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et dans un instant, c'est l'heure de l'agenda dans Good Luxe. Mais d'abord, un petit mot sur le livre de la semaine. Je vous emmène dans les vignes Angélus. Emmanuel, ça vous dit quelque chose ?
On est du côté de Bordeaux.
Évidemment. Angélus, c'est 8 générations qui se sont suivies à la tête de ce vignoble et de ce nom qu'on ne présente plus, j'ai envie de dire. Et pourtant, il y a un bouquin qui sort. Donc, préface de Guy Savoie, c'est Jane Hanson et Guillaume Delobier. Mais pourquoi Jane Hanson ? On se dit, mais pourquoi encore une étrangère qui s'occupe ? Jane Hanson, c'est pas n'importe qui. Elle est professeure accréditée à l'école du vin de Bordeaux. Et en fait, elle est correspondante pour le magazine britannique Decanter en France. Donc voilà, autant vous dire qu'elle connaît bien.
Et vous savez très bien que dans la superbe et dans la renommée des vins de Bordeaux, ils doivent beaucoup à l'Angleterre. Une partie du succès du Bordelais à travers le monde, dès le départ, est due à beaucoup d'Anglais.
Eh bien voilà, et donc c'est la famille de Boire de La Forêt depuis 1782 qui tient ce magnifique vignoble. On est juste à côté de Saint-Émilion. Et donc dans cet ouvrage, bien sûr, on retrace l'histoire d'Angélus sur 8 générations, je disais donc. Mais aussi, on a de belles photos de Guillaume Delobier sur le savoir-faire aussi que représente la maison. Et d'autant plus que depuis 2012, tout le lieu a été rénové. Donc c'est vraiment une belle propriété de surcroît. Je crois que l'on découvre pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ou qui voudraient en savoir un peu plus sur ce... Parce que finalement, c'est le genre de nom magique.
Angelus, et qu'est-ce qui se cache derrière? On ne sait pas toujours.
Pendant des années, ça commence à changer. D'un seul moment, on peut commencer à intégrer et à visiter ces domaines, notamment les chais. C'est tout nouveau, ce qu'on appelle le no-tourisme. Enfin, il communique à travers des ouvrages, mais c'est tout neuf derrière la magie. Déjà, on n'a pas toujours la chance de déboucher et de caresser les étiquettes d'Angelus, mais enfin, on découvre que, on le savait, on le devinait, mais on peut commencer à percer un peu des mystères d'un domaine pareil où, comme vous le dites, il y a les hommes. Il y a les gestes et il y a aussi les paysages et les lieux, c'est-à-dire à la fois les chais, le château qui l'accompagne, et puis tous les paysages qui font, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'on parlait des Crayères de Reims ou des Regards en Bourgogne qui ont été classés, peut-être bientôt celui de Bordeaux. C'est tout ce que raconte l'ouvrage qui est très très bien fait. C'est vrai que c'est, et je crois que malgré tout, même autour des grands noms de Bordeaux ou de Bourgogne, il y a peu de maisons qui peuvent avoir le droit de citer d'un ouvrage total.
Et là, ça s'appelle Angelus, tout simplement, aux éditions La Martinière. Allez, agenda.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Et nous partons encore pour les Arts Déco, pour une nouvelle expo, Emmanuel.
Musée des Arts Déco, nouvelle expo qui commencera le 7 avril, c'est-à-dire tout bientôt, jusqu'au 14 août. L'expo s'appelle Fashion Forward. Je trouve ça un peu dommage comme titre, c'est pas que je sois un tenant absolument de l'académie, mais on comprend pas très bien, alors que le sous-titre est beaucoup plus explicite, 3 siècles de mode, 1715-2015. Et pour la première fois, c'est une manière aussi pour les Arts Déco de fêter l'anniversaire de leur collection de mode. Cette collection, elle a, elle, 30 ans, je crois, à peu près, et donc ils vont pour la première fois la révéler dans une partie de son intégralité. 300 pièces vont être réunies en manière de frise chronologique depuis le 18e jusqu'à aujourd'hui, pièces de mode féminine, masculine, enfantine, et qui nous racontent non seulement bien sûr une certaine histoire de la mode, des étoffes, des gestes, mais à chaque fois c'était très marrant parce qu'ils ont travaillé aussi à remplacer chacune de ces pièces dans leur contexte politique, social, moral, intellectuel, dans leur époque. Et on voit que, un peu comme l'assiette est parfois le miroir d'une société, eh bien la mode est aussi le reflet de cette même société. Et donc, ils sont allés puiser dans d'autres collections des Arts Déco d'autres pièces pour mettre en rapport la mode et puis le mobilier et autres. C'est a priori très bien fait. Je suis très honnête. Comme l'exposition va être inaugurée cette semaine, je ne l'ai pas encore visité. J'ai le dossier de presse, j'ai réfléchi. On en reparlera très bientôt. Mais sur le papier, et en tout cas la réputation de cette collection, justement, parce qu'on la connaît pas.
300 pièces uniques.
300 pièces, ça ne peut pas être complètement raté. La scénographie peut-être, pas les pièces.
Allez, je vous emmène dans l'Orient Express. À partir du 3 mai, vous pourrez réserver, vous pouvez réserver maintenant, mais ce sera à partir du 3 mai, vous pourrez manger à la table de l'Orient Express. 38 privilégiés à bord du train, vous serez véritablement dans un wagon, dans une voiture historique de l'Orient Express. 64 soirées. Aux commandes, Yannick Aleno pour la gastronomie, le chef pâtissier Yann Couvreur. Comment ça va se passer? Vous réservez, vous partez, parce qu'il y aura trois lieux de départ. Cannes du 3 mai au 23 mai, Paris du 1er juin au 16 juillet et Bordeaux du 20 juillet au 30 juillet. Comment ça se passe? Vous réservez donc tout simplement sur orient-express.com. Vous allez en gare, à Paris ce sera Gare de l'Est, vous montez dans la voiture et là c'est parti, on vous fait bouger, le train roule pendant que vous dînez, ce repas merveilleux dont on ne sait pas grand chose encore, mais de toute façon vous y allez aussi et surtout pour le décor.
Allez, on ne va pas jouer les anciens combattants, on a eu la chance nous de faire une émission à bord de l'Orient Express et nous avions déjeuné. C'est non seulement d'abord il y a une vraie mise en scène de table qui est extraordinaire, vous êtes dans un décor Pullman Orient Express, où là vous allez avoir un bon chef qui est quand même a priori Yannick Aleno. Et c'est vrai que ce train en mouvement là, gastronomie lorsqu'elle se meut dans un train, en fait c'est quelque chose qu'on ne connaît plus. Il n'y a plus de train-wagon de restaurant.
Et c'est,
donc,
à l'aune,
c'est formidable.
À l'aune du décor, 530 euros. Allez, on continue à parler d'un grand chef.
Oui, vous l'aviez reçu il y a quelques temps la semaine, c'est Alain Ducasse, on en sait un peu plus, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait parler de lui, si je rigole. En tout cas, deux nouvelles adresses. La première, ce sera du côté du Forum des Halles dans quelques temps, ce sera une brasserie, on n'en sait pas encore beaucoup plus, mais en revanche, on en sait beaucoup plus pour son adresse à Versailles, un café voulu comme un café contemporain dans ce Versailles qui n'en finit pas de se réinventer. Son café est installé dans le pavillon du four, le pavillon du four qui a été raménagé. C'est un petit peu le pavillon qu'on a tous croisé sans le fréquenter parce qu'il n'était pas ouvert. Ce sera le pavillon d'accueil de ce nouveau Versailles et à l'intérieur de ce pavillon du four, donc un café contemporain où Ducasse, là encore de manière très contemporaine, va essayer de rendre hommage au grand code de la gastronomie versaillaise. Faut pas oublier que le service a été non partie codifié à la table des rois et notamment à Versailles. Donc il y aura des clins d'œil. On sait aussi le nom Auré. Auré en latin, ça veut dire bouche. bon, l'a bien nommé, Ducasse, donc coup double
Ducasse à Versailles.
Au printemps, et c'est dans quelques jours l'ouverture à Versailles. On attend juste les beaux jours et boum.
Et boum. Et si vous voulez devenir le chef de Mouette et Chandon, figurez-vous que c'est possible, puisque Mouette et Chandon, donc le champagne, vous lance un nouveau défi. C'est Mouette et Chandon Wants You. Comment ça se passe? Vous êtes chef ou vous faites simplement extrêmement bien la cuisine. Vous envoyez une petite vidéo d'une minute en anglais, expliquant votre motivation, ainsi que les recettes qui, selon vous, s'accordent avec Mouette et Chandon, le champagne iconique de la maison. Et donc, c'est vraiment ouvert à tous, hein. Et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dégoter leur nouveau chef de cuisine qui pourra, dont les recettes pourront intervenir dans les résidences historiques comme la résidence du Trianon, avenue de Champagne à Épernay, ou le château de Saran au cœur du vignoble. Et vous pourrez comme ça contribuer à l'histoire de Mouette et Chandon. CV avec référence professionnelle sur mouette.com/newchef. Attention, avant le 15 avril 2016. Ah. Ça vous intrigue, ça, hein?
Non, ça m'intrigue parce qu'il y a une manière de luxe participatif. On a vu tout à l'heure avec Sandy que le magazine W, avec Hugo Boss, lançait une manière de concours de photos pour que certains jeunes photographes investissent les pages de ce magazine. Là, c'est Mouette qui cherche son chef. Bah, peut-être qu'on devrait faire un concours. Venez présenter l'émission. On est fatigué parfois.
En attendant,
ce sera pas pire que moi.
Emmanuel, je vous retrouve la semaine prochaine quand même pour venir la semaine prochaine.
Avec plaisir.
Merci.
Et le concours, ça tient, hein?
Ne quittez pas, comme dirait l'autre. Good Luxe Paris, c'est pas tout à fait terminé. C'est le best-of tout de suite sur BFM Business.